Bon, le problème avec un P majuscule. Donc, quand on parle de stress chronique, peut s'agir d'une situation personnelle, de conflit interpersonnel, de tout processus de deuil et du chagrin, de la dépression, d'une maladie ou d'une douleur chronique, d'un accident avec une longue réhabilitation, d'un trouble de la personnalité, toutes ces choses qui nous accompagnent sur des périodes plus longues que le moment difficile que vous avez évoqué tout à l'heure. Et je vais parler de l'aspect pleine conscience pure, mais face à ces problèmes-là, la distraction reste une bonne stratégie. Être capable de se concentrer sur quelque chose pour ne pas être trop absorbé par le problème avec un grand P est une compétence de méditant qu'on cultive à chaque fois qu'on observe la respiration et qui est extrêmement importante parce que même quand on a un problème avec un grand P, on a une vie à vivre. Et il y a des moments qu'on aimerait vivre sans être absorbé par ce problème-là. On doit être capable aussi de se fabriquer des oasis de stabilité, des moments méditatifs où on ne pense qu'à la méditation autant que possible et où du coup on se soulage un petit peu de cette absorption par le problème. Alors, sur le plan méditatif, parfois, surtout dans les journées difficiles, tous les petits trucs qu'on a utilisés dans le cours, le comptage par exemple, ou la note mentale, lever, baisser, corps ou inspire, expire, sensation, peut vraiment être aidant. Parce que parfois, si c'est une journée difficile en relation avec ce problème, vous aurez besoin de vous remplir la tête pour pouvoir méditer. Et se remplir la tête quand on a un problème avec un grand P, c'est souvent faire échec à la nature discursive de l'esprit. Parce que beaucoup de nos préoccupations seront verbalisées intérieurement. On se dira. Et si en méditant sur la respiration, on se dit lever, baisser, inspire, expire. À moins d'être que notre voix intérieure soit ventriloque, on n'arrivera pas à dire deux choses en même temps. Donc on n'arrivera pas à dire, monsieur, si ça continue, et en même temps lever, baisser. Donc on se remplit la tête. On se remplit la tête de quelque chose d'adéquat par rapport à la méditation qu'on est en train de conduire, puisque c'est simplement une manière de nommer ce que notre attention est en train de faire. Donc même si la note mentale, comme ça sur papier, ne vous parle pas, quand vous êtes dans une période difficile, avec une préoccupation majeure qui est un peu, selon vous, tout le temps présente, la note mentale et le comptage, c'est cette manière de lui donner quelque chose à faire. Parfois, c'est aussi approprié d'ajuster l'objet de méditation. Si le problème est un problème de douleur chronique, et qu'il est proche de la région abdominale, c'est peut-être logique de vous intéresser à la respiration ici. Au niveau des narines ou dans le dos. Si le corps est douloureux, ça peut être adéquat d'utiliser plutôt la conscience des sons que la conscience de la respiration pour vous éloigner un petit peu dans ce que vous faites avec votre attention de ce qui est désagréable. Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment une fuite, mais une fuite des plus nobles. Le but, c'est de fabriquer du calme, de fabriquer de la stabilité au milieu d'une situation dans laquelle vous n'en trouvez pas beaucoup, de pouvoir vous reposer aussi. Il y a aussi les activités dont on aimerait profiter pleinement, et là, la méditation, l'entraînement méditatif sont extrêmement utiles. Ça m'est arrivé il y a quelques semaines, au milieu de problèmes familiaux, entre relations familiales difficiles entre certains de mes proches, qui m'occupaient beaucoup. La tête, d'être en train de jouer avec ma fille et de remarquer que je ne jouais pas avec ma fille parce que mon esprit était complètement absorbé par ces préoccupations-là. Et j'en ai vraiment fait un exercice de méditation. Je perdais peut-être un poil de spontanéité dans mes interactions avec ma fille, mais c'était largement compensé par le fait que j'étais là. Ça implique de remarquer quand on est distrait et de se recentrer sur ce qu'on est en train de faire. Et il y a une attitude, je parle de méditation, c'est un enseignant de méditation qui proposait ça. D'une méditation de type western spaghetti. C'est-à-dire que je suis en train de jouer avec ma fille, et tout à coup, un début de pensée ou une pensée sur ses préoccupations familiales apparaît. Je me recentre sur ce que je fais avec ma fille. Une autre pensée apparaît. Je me recentre. Et c'est vraiment ça. On ne cherche pas à les chasser. En fait, il n'y a pas besoin, parce qu'à partir du moment où on reconnaît qu'on y pensait, c'est bon, on peut se recentrer sur ce qu'on était en train de faire. Mais ce moment de reconnaissance, il peut y avoir un truc assez ludique. Si on se dit que c'est un jeu et qu'on veut, à chaque fois que ces pensées apparaissent, les reconnaître aussi tôt que possible et revenir à ce qu'on était en train de faire, et qu'on le vit comme une méditation, et qu'on a pris l'habitude de le faire dans la méditation, c'est une compétence qui existe en nous. Donc ce serait dommage de ne pas l'utiliser dans ce contexte-là. Donc la distraction dans un problème avec un P majuscule est une stratégie valable, dans certains cas. Évidemment, il y a aussi l'observation de ce problème en pleine conscience. Donc, un petit rappel, parce que il y a un état optimal dans la méditation, dans le rapport qu'on a à notre expérience, qu'on peut définir en quatre points. Le premier, c'est qu'on est dans l'instant présent, simplement. Le deuxième, c'est qu'on observe notre expérience quand elle est difficile, en reconnaissant que la souffrance fait partie de notre nature humaine, que c'est pas un truc exceptionnel, que la maladie, la séparation d'avec ce qu'on aime, l'association avec ce qu'on n'aime pas, selon les définitions de la philosophie bouddhiste très large, qui disent que la souffrance humaine, c'est la naissance, la maladie, la mort, l'association avec ce qu'on n'aime pas, la séparation d'avec ce qu'on aime. Un champ, un spectre assez large et couvert hein, avec ça. Le vieillissement, il le mentionne aussi. Et à partir du moment où on observe ce qu'on vit de désagréable, avec cette reconnaissance de ce que tout le monde est exposé à la même souffrance et qu'elle est inhérente à la fragilité, à la vulnérabilité humaine, on le vit d'une façon différente. Ça donne aussi plus de valeur à tous les moments agréables quand on reconnaît que la souffrance et la difficulté est la règle pour les êtres humains, pas quelque chose de scandaleux qui ne devrait jamais nous arriver, mais quelque chose qui arrive à tout le monde, tout le temps. On entend souvent parler de ces personnes qui ont vécu un accident grave, par exemple, ou un problème de santé majeur, et qui se sont rétablies, et dont la vie a complètement changé ensuite, qui profitent plus de la vie, qui ont un rapport avec leurs proches plus investi qu'avant, qui parfois s'investissent un peu moins dans leur travail ou dans ce qui les occupait plus avant. Donc il y a cette reconnaissance de notre fragilité, de notre vulnérabilité, peut amener à ce que la vie soit vécue de façon plus pleine parce qu'on a conscience de notre fragilité quand on a eu ce genre d'expérience-là. C'est un peu ce que cette conscience de la vulnérabilité humaine signifie. Bon, être dans l'instant présent, avoir conscience de cette vulnérabilité, et plus techniquement, méditativement, observer notre expérience en reconnaissant justement que les états agréables, comme les états désagréables, vont passer. C'est ce qu'on appelle la notion d'impermanence. Le fait qu'il n'y a rien qui soit permanent dans le flux de notre expérience, des choses qui apparaissent, puis disparaissent, les unes après les autres. Et finalement, observer notre expérience en étant capable de s'en désidentifier. Donc nous ne sommes pas nos pensées, ni nos émotions, ni nos sensations, ce sont les choses que nous observons dans le champ de notre attention. Et c'est passer de « mon Dieu, je suis encore anxieux » à « aha » de l'anxiété. De cette capacité à être avec la part de nous qui observe. Donc, instant présent, reconnaissance de la vulnérabilité quand on est face à des choses difficiles et des choses agréables. Observation de notre expérience en reconnaissant que tout ce qui s'y passe ne durera pas, passera. Et observation de notre expérience en étant capable de s'en désidentifier. L'observation de la colère n'est pas colérique. L'observation de l'anxiété n'est pas anxieuse. C'est vraiment à cette capacité de désidentification que ça renvoie. Or, quand on est submergé par un problème avec un P majuscule, ce qui peut se produire et ce qui va justement lui donner ce statut de problème, c'est une altération, un changement de notre rapport à notre expérience qui va exactement dans le sens opposé. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le présent. On est dans le passé, avant c'était mieux, ou avant j'étais mieux, ou on est dans le futur, demain ce sera pire, ou demain ce sera mieux. Et on désinvestit le présent, parce que ce problème nous renvoie à l'époque où il n'était pas présent, et à l'époque où il pourrait être plus grave ou disparu. On quitte l'instant présent. Plutôt que d'avoir ce sentiment de vulnérabilité partager, c'est-à-dire d'appartenir à la grande communauté humaine des gens qui sont aptes à la souffrance et qui sont vulnérables intrinsèquement, on a souvent une tendance à se sentir aliéné et séparé des autres. Un sentiment de solitude et de déconnexion. On se sent seul, victime d'une espèce d'injustice. Ce qui nous arrive n'est pas normal et personne ne peut le comprendre à part nous. Donc, quand on est face à un problème chronique, typiquement, ça se passe souvent avec les problèmes de santé. On passe souvent, en tout cas, par ce moment où on se sent complètement séparé des autres personnes qui n'ont pas le même problème que nous. On passe de l'impermanence à justement une impression que le problème est là en permanence. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec l'insomnie. C'est que même quand on n'est pas objectivement en situation de souffrir de ce problème-là, il est là. Il est constamment, on le vit comme étant constamment présent, stable, immuable, oppressant. Le problème a un impact sur notre identité. On peut avoir l'impression qu'on n'est plus la même personne et on est très loin de la désidentification. On se sent changé soi-même. On est une personne différente qu'avant. La personne saine, si c'est une maladie, est remplacée par une nouvelle identité de personne malade, une nouvelle identité de personne dépressive ou d'une personne en deuil, d'une personne psychologiquement cassée, abîmée en fonction du problème qu'on rencontre. Donc, quand on est face à un problème chronique, on se sent parfois marqué dans notre identité et justement pas du tout désidentifié de ce qu'on vit. Donc, sur le plan méditatif, évidemment que le travail qu'on peut faire, c'est d'essayer de rétablir ce rapport plus méditatif à ce qu'on est en train de vivre. En réponse à cette solitude et à cette séparation, il y a la notion de compassion qu'on va travailler pratiquement tout à l'heure, qui peut nous aider à nous reconnecter en fait avec, à faire échec à ce sentiment d'isolation. En réponse à cette impression que le problème est permanent, solide, on peut observer ce qui change et ce qui évolue et ce qui compose ce problème, parce qu'on le vit comme un bloc, alors que, comme d'habitude, la réalité est plus complexe que ça, sur le plan de ce qu'on expérimente. Et en réponse à cette identité de personne fêlée qui remplace l'ancienne, on peut pratiquer une désidentification en cherchant à coller au plus près de cette partie observatrice en nous, et ça aussi on va le travailler tout à l'heure. Alors, vous êtes prêts pour un premier exercice? Tout le monde a un problème avec un P majuscule à l'esprit, le problème du moment, que ce soit un problème relationnel, problème de santé, quel qu'il soit. Alors, on peut s'installer dans une position confortable. Ok, alors, je vous propose de commencer et en faisant usage de votre imagination, commencez par vous représenter des personnes, ici ou ailleurs, qui sont dans une situation proche de la vôtre, qui rencontrent le même problème ou le même genre de problème en ce moment. Peut-être que vous connaissez des personnes vous-même qui sont dans la même situation, une situation proche. Vous pouvez imaginer leur visage, leur vie de tous les jours, vraiment un travail d'imagination. À quoi les personnes dans le monde qui vivent le même problème que vous peuvent-elles ressembler dans votre imaginaire? Vous pouvez leur donner des visages si vous sentez que les visages apparaissent. Et à toutes les personnes qui sont dans la même situation que vous, qu'est-ce que vous aimeriez leur souhaiter dans une attitude bienveillante. Je vous souhaite, qu'est-ce que vous leur souhaiteriez? Quelque chose d'approprié pour vous. Et en répétant la phrase que vous avez choisie, en la leur adressant, et en vous adressant maintenant cette même phrase à vous-même, je me souhaite, ou la formulation que vous avez choisie. À chaque fois que je fais cet exercice, je réalise qu'il m'est beaucoup plus facile de souhaiter quelque chose d'adéquat à d'autres personnes qui vivent la même chose que moi qu'à moi-même. Pour moi, c'est un bon truc de prendre ce détour. Et je pense aussi que c'est une manière objectivement de se rappeler que non, nous ne sommes pas la seule personne au monde dans cette situation. Il n'y a vraisemblablement pas, même si on est unique. Et ça permet de rétablir un petit peu cette notion de conscience de la communauté humaine qui souffrent par moments de la même manière que nous, et d'entrer en relation avec ce qu'on vit d'une façon plus adéquate. Maintenant, parfois on peut aussi utiliser la formulation « je nous souhaite » à un moment ou à un autre, c'est-à-dire s'intégrer avec ces personnes et se le souhaiter à nous et à eux. Sur le plan de l'impermanence et de la fluidité de ce qu'on vit, il y a toujours des parties de notre vie qui échappent aux problèmes. Dans le problème lui-même, on vit des hauts et on vit des bas. Il y a des bons jours, des mauvais jours. Et évidemment que ce n'est pas un problème solide, ce n'est pas un bloc, mais c'est une succession de moments, d'émotions, de sensations, de pensées qui se répondent, qui s'alimentent, qui s'amplifient et qui constituent cette espèce de nuage noir qui nous accompagne parfois. Chaque moment vécu va renforcer ou atténuer l'intensité de ce qu'on ressent. Donc il n'y a pas de problème avec un P majuscule. C'est la définition qu'on en donne nous-mêmes parfois, mais c'est évidemment une succession de petits moments. Et on sait que les émotions durent 90 secondes, si on ne les alimente pas, donc elles montent, elles redescendent. Et la pensée « ce problème est permanent » est aussi juste une pensée qui va durer encore moins que 90 secondes. Donc vous pouvez brièvement fermez les yeux et vous posez juste deux ou trois questions. En lien avec ce problème, quelles sont les émotions qui apparaissent puis disparaissent en vous? En essayant de toutes les identifier, parce qu'il y en a différentes qui apparaissent à différents moments en relation avec ce problème-là, est-ce que vous pouvez en nommer et en reconnaître autant que possible? Et peut-être en en essayant d'évoquer des moments où ce problème est très présent pour vous, quelles sont les sensations dans le corps qui apparaissent puis disparaissent en lien avec ce problème. Est-ce que vous pouvez laisser votre corps s'en souvenir ? Quels sont les moments où ce problème prend le moins de place pour vous? Les moments où il a le plus souvent tendance à se faire discret ou moins important? À quel moment est-ce que ça se produit pour vous? Les moments où il s'oublie un peu, où vous y pensez le moins ou pas du tout? Ça va mieux. Et une dernière question, une question classique peut-être pour vous. En laissant ce problème de côté, quels sont les aspects de votre vie qui vous conviennent, qui sont source de satisfaction et de bonheur, que vous n'aimeriez pas voir changer? Un petit, tout petit moment de réflexion sur le contentement. Autant les activités qui vous font du bien, les moments que vous chérissez, les relations qui vous font plaisir, toutes les choses qui comptent pour vous, que vous n'aimeriez pas voir changer, qui vous satisfont très bien comme elles sont. C'est exactement ces questions-là qu'on peut se poser pour saisir les moments, saisir les nuances en fait, dans ce qu'on expérimente souvent comme étant quelque chose de permanent et de constamment présent. Il y a les moments où c'est peut-être pas là, ou dans notre perception, il y a les moments où c'est moins là. Il y a des aspects de notre expérience qui nous apportent du plaisir même quand ce problème est présent. C'est toutes ces choses qui nous permettent de nuancer ce problème, de le voir comme une succession de moments, de reconnaître chacun de ces moments, chacune des émotions et des sensations impliquées, et de repérer aussi les moments où ils ne se manifestent pas, pour que cette espèce de bloc inamovible et permanent devienne changeant, composé de plein de petits éléments différents, et avec des moments de repos, de pause ou d'absence. Ok, le dernier point, ça c'est pour l'impermanence. pour en remettre un petit peu de ça aussi, ça va passer. Il y a cette question de la désidentification. Il y a un enseignant de méditation qui était très âgé, mais qui tenait à voyager en Inde, faire un pèlerinage en Inde. Et il faisait extrêmement chaud, ils avaient très peu mangé, ils étaient très fatigués. Munindra, il s'appelait l'enseignant. Un des plus jeunes accompagnants lui a dit, mais est-ce que ça va? Parce qu'il y a dans cette station de bus, avec le bus qui n'arrive pas, il fait 40 degrés, on n'a pas mangé depuis 8 heures. Sa réponse, c'était de dire, il y a de la chaleur ici, mais je n'ai pas chaud. Il y a de la faim, mais je n'ai pas faim. Il y a de l'irritation, mais je ne suis pas irrité. Et c'est un peu cette capacité-là qu'on cherche à travailler. Il y a une illustration, je trouve, pour moi, extrêmement impressionnante de cette capacité à se désidentifier et de ce que ça implique sur le maintien de notre intégrité. Parce que quand on est face à un problème avec un P majuscule, parfois c'est notre intégrité en tant que personne qui est menacée. Comment on se définit, notre identité. Et il y a une partie de nous, et c'est, vous pouvez à la fois prudemment me croire et le vérifier par vous-même, il y a une partie de nous, une compétence en nous, une faculté en nous, qui est toujours intacte, quoi qu'il nous arrive. Et un enseignant de méditation qui, lui aussi, avait un âge avancé, mais avait une santé plus précaire, parce qu'il avait un début d'Alzheimer. Et il donnait une de ses causeries de fin de journée, et tout à coup, il a eu un blanc. Donc, il était au début, dans les premiers stades de la maladie, mais il a eu un moment d'absence complète. Et quand il en a émergé, il s'est mis à nommer ce qu'il vivait. Et il a dit confusion, peur, confusion, peur, honte, peur. Et il nommait chaque moment de son expérience les uns après les autres, et à chaque fois qu'il le faisait, il réaffirmait le fait que cette partie de lui qui peut observer et reconnaître ce qui se passe était intacte au moment où il prononçait les mots. Et je pense que c'est à la fois une histoire terrible, mais en même temps, en un sens rassurante, parce qu'il y a quelque chose en nous qui, même face à une maladie qui, par définition, altère notre capacité à reconnaître ce qui se passe, cette capacité reste intacte très longtemps. Et quand on vit quelque chose de difficile, il y a toujours cette capacité en nous de l'observer qui n'est pas directement affectée. On a l'impression qu'elle l'est, mais elle ne l'est pas. L'observation de la colère n'est pas colérique, l'observation de l'anxiété n'est pas anxieuse. Cette partie de nous qui observe n'est pas affectée par ce qu'elle observe. Elle est indépendante de ce qu'elle observe. Et plus on l'utilise, plus elle se renforce. Et la partie préservée de notre intégrité en tant que personne, pour moi, elle est très intimement liée à cette capacité-là. Et tant que cette capacité-là, on l'exerce, et plus on l'exerce, plus on affirme qu'il y a en nous quelque chose qui reste entier et préservé, quelle que soit l'expérience difficile qu'on est en train de vivre. Je vais vous proposer de l'entraîner, cette capacité-là, parce que je pense que c'est pas mal de finir comme ça. Vous pouvez fermer les yeux. Et je vous propose d'utiliser de façon très rigoureuse cette notion de note mentale. C'est-à-dire d'ouvrir votre attention complètement à toute votre expérience, mais intérieurement de dire son, quand c'est un son qui prend la place centrale, sensation pour une sensation, image pour ce que voient vos yeux fermés, si c'est ce qui attire votre attention. Odeur et goût, c'est plus rare. Et évidemment, pensée, quand c'est une pensée que votre esprit produit, qui est au centre de l'attention. Donc vous laissez votre expérience se dérouler, mais vous prenez soin de nommer, même a posteriori, si vous avez une pensée qui vous a entraîné loin, quand vous émergez, prenez le temps de dire pensée, pour affirmer que vous l'avez notée et que vous l'avez reconnue aussi. Son, il n'y a que 6 possibilités. Son, sensation, image, odeur, goût, pensée. Chacun de vos 5 sens est les pensées. Vous pouvez le faire intérieurement d'une façon aussi continue que possible. Et parfois, vous faites un choix en disant sensation, si vous sentez à la fois une sensation et entendez un son, vous choisissez d'observer plutôt la sensation, c'est tout à fait possible de le faire. Quand vous utilisez la note mentale face à un problème chronique, le choix des mots peut avoir de l'importance. Je vous recommande d'en rester à des choses très simples. Par exemple, parfois, dire anxiété pour quelqu'un qui a un problème d'anxiété chronique, c'est presque déjà trop intense. Il vaut mieux dire sensation, parce qu'il y a une sensation liée à l'anxiété qui est présente, et pensée, ou émotion, un terme tout à fait générique. Pour quelqu'un qui a un problème de douleur chronique, dire douleur, ça peut être très chargé. C'est plus approprié de dire sensation et d'observer la douleur en tant que sensation et d'observer les émotions en tant qu'émotion. Donc de choisir un vocabulaire qui en lui-même ne va pas renforcer la perception que vous avez d'un problème qui est là. Un vocabulaire qui est aussi neutre et descriptif que possible. Donc le problème, une fois qu'on l'aborde de cette manière-là, il redevient plus facile de l'observer en pleine conscience parce qu'on le décompose un petit peu en des petits éléments qu'on peut reconnaître. C'est les trois axes qui, pour moi, ont du sens pour un problème chronique. C'est la compassion avec les autres personnes qui sont dans la même situation que nous, cette prise de conscience du caractère impermanent, changeant, composé de plein d'éléments du problème, et cette culture de l'observateur intérieur qui peut observer tout ce qui se passe en nous, quelles que soient les circonstances. Est-ce qu'il y a des questions pour les personnes qui ne doivent pas s'enfuir maintenant ?